Quel personnage, le vent, pour les marins. On en parle comme d'un homme, d'un souverain tout-puissant, tantôt terrible, tantôt bienveillant. C'est de lui qu'on s'entretient le plus le long des jours. C'est à lui qu'on pense sans cesse le long des jours et des nuits. Oh, vous ne le connaissez point, vous, gens de la terre. Nous autres, nous le connaissons plus que notre père ou que notre mère. C'est invisible. Ce terrible, ce capricieux, ce sournois, ce traître, ce féroce. Nous l'aimons et nous le redoutons. Nous savons ses malices et ses colères que les signes du ciel et de la mer nous apprennent lentement à prévoir. Il nous force à songer à lui à toute minute, à toute seconde, car la lutte entre lui et nous ne s'interrompt jamais. Tout notre être est en éveil pour cette bataille. L'œil, qui cherche à surprendre d'insaisissables apparences, la peau qui reçoit sa caresse sous son choc, l'esprit qui reconnaît son humeur, prévoit ses surprises, juge s'il est calme ou fantasque. Aucun ennemi, aucune femme ne nous donne autant que lui la sensation du combat, ne nous force à tant de prévoyance, car il est le maître de la mer, celui qu'on peut éviter, utiliser ou fuir, mais qu'on ne dompte jamais. Et dans l'âme du marin règne, comme chez les croyants, l'idée d'un dieu irascible et formidable, la crainte mystérieuse, religieuse, infinie du vent et le respect de sa puissance. Là-bas, tout là-bas, au bout de l'horizon, une ligne d'un bleu noir s'allonge sur l'eau. Ce n'est rien, une nuance, une ombre imperceptible. C'est lui. La ligne sombre aperçue au loin s'approche. L'éclat métallique de l'eau soudain se transforme en une teinte ardoisée. Le ciel est pur, sans nuage. Tout à coup, autour de nous, sur la mer aussi nette qu'une plaque d'acier, glissent de place en place, rapides, effacés aussitôt qu'apparus, des frissons presque imperceptibles, comme si on eût jeté dedans 1000 pincées de sable menu. La voile frémit, mais à peine. Puis, le gui lentement se déplace vers tribord. Un souffle maintenant me caresse le visage et les frémissements de l'eau se multiplient autour de nous comme s'il y tombait une pluie continue de sable. La barre se raidit dans ma main. La longue barre de cuivre qui semble sous le soleil une tige de feu et la brise, de seconde en seconde, augmente.
Thank you.
clairons forcenés de l'espace se turent. La trombe sortit du ciel, sans diminution préalable, sans transition, et comme si elle-même avait glissé à pic dans un gouffre. On ne sut plus où elle était. La neige commença à tomber lentement, plus de flots, la mer s'aplatit. Ces soudaines sensations sont propres aux bourrasques de neige. L'effluve électrique épuisé, tout se tranquillise, même la vague, qui, dans les tourmentes ordinaires, conserve souvent une longue agitation. Ici, point. Aucun prolongement de colère dans le flot. Comme un travailleur après une fatigue, le flot s'assoupit immédiatement, ce qui dément presque les lois de la statique, mais n'étonne point les vieux pilotes, car ils savent que tout inattendu est dans la mer. Au bout de quelques minutes, l'ourque n'avait plus autour d'elle qu'une eau endormie. En même temps, quand la dernière phase ressemble à la première, on ne distingua plus rien. Tout ce qui était devenu visible dans les convulsions des nuages météoriques redevint trouble. Les silhouettes de blême se fondirent en éléments diffus et le sombre de l'infini se rapprocha de toutes parts du navire. Ce mur de nuit, cette occlusion circulaire, ce dedans de cylindre dont le diamètre décroissait de minute en minute enveloppait la Matutina. Et avec la lenteur sinistre d'une banquise qui se ferme, se rapetissait formidablement. Au zénith, rien. Un couvercle de brume. Une clôture. L'ourque était comme au fond d'un puits de l'abîme. Dans ce puits, une flaque de plomb liquide. C'était la mer. L'eau ne bougeait plus. Immobilité morne. L'océan n'est jamais plus farouche qu'étant. Tout était silence. Apaisement. Aveuglement. Le silence des choses est peut-être de la taciturnité. Les derniers clapotements glissaient le long du bordage. Le pont était horizontal avec des déclivités insensibles. Quelques dislocations remuaient faiblement. La coque de grenade, qui donnait lieu de fanal et où brûlaient des étoupes dans du goudron, ne se balançait plus au beau pré et ne jetait plus des gouttes enflammées dans la mer. Ce qui restait de souffle dans les nuées n'avait plus de bruit. On entendait l'écume d'aucun brisant. Paix des ténèbres.
Thank you.
l'ouragan. Les nuages, qu'on distinguait au zénith, étaient à leur centre d'un noir affreux et cuivré sur leur bord. L'air retentissait des cris des pailles au cul, des frégates, des coupeurs d'eau et d'une multitude d'oiseaux de marine qui, malgré l'obscurité de l'atmosphère, venaient de tous les points de l'horizon chercher des retraites dans l'île. Vers les 9 h du matin, on entendit, du côté de la mer, des bruits épouvantables, comme si des torrents d'eau mêlés à des tonnerres eussent roulé du haut des montagnes. Tout le monde s'écria « Voilà l'ouragan !» Et dans l'instant, un tourbillon affreux de vent enleva la brume qui couvrait l'île d'Ambre et son canal. Le Saint-Géron parut alors à découvert avec son pont chargé de monde, ses vergues et ses mâts de hune amenés sur le Tillac, son pavillon en berne, 4 câbles sur son avant et un de retenue sur son arrière. Il était mouillé entre l'île d'Ambre et la terre, en deçà de la ceinture de récifs qui entoure l'île de France, et qu'il avait franchi par un endroit où jamais vaisseau n'avait passé avant lui. Il présentait son avant aux flots qui venaient de la pleine mer, et à chaque lame d'eau qui s'engageait dans le canal, sa proue se soulevait tout entière, de sorte qu'on envoyait la carène en l'air. Mais dans ce mouvement, sa poupe, venant à plonger, disparaissait à la vue jusqu'au couronnement, comme si elle eût été submergée. Dans cette position, où le vent et la mer le jetaient à terre, il lui était également impossible de s'en aller par là où il était venu, ou, en coupant ses câbles, d'échouer sur le rivage dont il était séparé par de hauts fonds semés de récifs. Chaque lame qui venait briser sur la côte s'avançait en mugissant jusqu'au fond des anses et y jetait des galets à plus de 50 pieds dans les terres. Puis, venant à se retirer, elle découvrait une grande partie du lit du rivage dont elle roulait les cailloux avec un bruit rauque et affreux. La mer, soulevée par le vent, grossissait à chaque instant, et tout le canal compris entre cette île et l'île d'Ambre n'était qu'une vaste nappe d'écume blanche, creusée de vagues noires et profondes. Ces écumes s'amassaient dans le fond des anses à plus de 6 pieds de hauteur, et le vent, qui en balayait la surface, les portait par-dessus l'escarpement du rivage à plus d'une demi-lieue dans les terres. Alors, flocons blancs et innombrables, qui étaient chassés horizontalement jusqu'au pied des montagnes, on eût dit une neige qui sortait de la mer. L'horizon offrait tous les signes d'une longue tempête. La mer y paraissait confondue avec le ciel. Il s'en détachait sans cesse des nuages d'une forme horrible qui traversaient le zénith avec la vitesse des oiseaux, tandis que d'autres y paraissaient immobiles comme de grands rochers. On n'apercevait aucune partie azurée du firmament. Une lueur olivâtre et blafarde éclairait seule tous les objets de la terre, de la mer et des cieux. Dans les balancements du vaisseau, ce qu'on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent, et comme il n'était plus retenu que par une seule ancière, il fut jeté sur les rochers à une demi-encablure du rivage.
Thank you.
Se dilue la couche de souffrance et de peur qui a recouvert mon âme, se défait le tissu des infamies, des cruautés, des horreurs qui se sont emparées de mes yeux, s'efface l'ombre de la mort qui dévorait mon cerveau, et dans la brusque lumière d'une clarté imprévisible, je vois enfin, et j'entends, et je comprends, la mère. Elle semblait une spectatrice, silencieuses et même complices. Elles semblaient un cadre, un décor, un arrière-plan. Et maintenant, je la regarde et je comprends. La mère était tout. Elle a été tout dès le premier instant, tout. Je la vois danser autour de moi, somptueuse, dans sa lumière de glace, monstre infini et merveilleux. Elle était là, dans les mains qui tuaient, dans les morts qui mouraient. Elle était là, dans la soif et dans la faim. Dans l'agonie aussi, elle était là, dans la lâcheté, dans la folie. Elle était la haine et le désespoir. Elle était la pitié et le renoncement. Elle est ce sang et cette chair. Elle est cette horreur et cette splendeur. Il n'y a pas de radeau. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de parole, de sentiment, de geste, rien. Il n'y a pas de coupable, ni d'innocent, de condamné, ni de sauvé. Il y a seulement la mère. Tout n'est plus que mère. Et nous, abandonnés de la terre, nous sommes devenus le ventre de la mère. Et le ventre de la mère, c'est nous.